Tu vas te prendre la poutre. Baisse-toi encore. Une fois qu'on a passé celle-là, c'est bon, voilà. Là, c'est mon bunker. Regarde un peu le grenier, comment il est.
Pour cette nouvelle émission, on est allé à la rencontre de Jean-Luc, chez lui, à côté de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Il nous accueille dans son studio, dans le grenier de sa maison, où il nous raconte ses 50 ans de passion pour la musique, à travers ses différentes formations et projets musicaux qui se produisaient et qui se produisent dans les booms, surprise party, fêtes votives, et plus encore aujourd'hui.
Là, j'ai une photo là, qui est pour moi. C'est tout à fait mon début, là, je ne sais pas si tu vois. Ici, tu vois, notre première prestation, on a commencé comme ça, des copains. Bon, lui, il chantait un petit peu, il connaissait tout le répertoire des Chaussettes Noires, des Chaussettes Sauvages, n'importe quoi. Bon, moi, j'avais la chance d'avoir une guitare électrique, à l'époque, ce n'est pas évident. Tu vois, parce que le copain, là, lui il n'avait pas la guitare électrique, il avait une vulgaire guitare sèche comme ça, tu vois. Et en fait, on a démarré, si tu veux. Ça a été très vite, tout à fait, au début. En fait, si tu veux, bon, moi, là, bon, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, que j'avais 3, 4, 5 ans, 6 ans, donc chez mes grands-parents, il y avait un piano. Voilà. Et sur ce piano, moi, de suite, je tapais comme ça. Donc, ça m'a développé un petit peu l'oreille musicale, tu vois. Et pourtant, je n'avais pas de... Personne ne me montrait un petit peu, quoi que ce soit. C'était d'instinct, je jouais au piano instinctivement, comme ça, voilà. Donc, après, quand j'ai grandi, j'avais abandonné le piano parce que j'habitais plus avec mes grands-parents. Mais j'avais certainement dû parler à la maison de guitare, un truc comme ça. Et un jour, mes parents, ils ont gagné à la foire à Moissac, la foire de Pentecôte. Bon, ils avaient gagné une guitare, un genre de guitare comme ça. Donc, ils s'amènent avec la guitare, voilà. Et j'avais 12 ans, 12, 13 ans. Ça m'a de suite, si tu veux, ça m'a plu. Moi, je ne sais même pas comment ça marchait, je ne sais même pas comment il fallait l'accorder ou quoi que ce soit. Je regardais les images pour savoir où se trouvaient les trucs là pour essayer d'accorder comme ça. Tu te rends compte, alors après, j'ai eu la chance de rencontrer un gars qui jouait déjà depuis quelques années à la guitare, qui avait un an ou deux de plus que moi. Mais lui, déjà, il était dans le bain, tu vois. Et c'est mes parents qui étaient très amis avec ses parents, et voilà, comme ça, j'ai démarré à connaître la guitare grâce à lui, voilà. Et après, donc, il y avait des copains de pas de mon école, parce que c'était l'école Imbert, à Moissac, il y avait une école privée, l'école Imbert, ils avaient acheté pour les jeunes, comme ça, une batterie. Il y avait une batterie et une petite solo ou un truc comme ça. Donc on s'est dit, tiens, mais on va profiter du matériel. Il y a un gars qui n'était pas batteur, il faisait ce qu'il savait. Moi c'était pareil. Voilà, donc on s'est retrouvés, on était trois ou quatre copains, bon, chacun dans sa partie. Bon, moi, j'avais déjà commencé à connaître des accords et tout. L'oreille, j'avais beaucoup maîtrisé pas mal l'oreille. Et lui, il avait le répertoire de l'époque, donc c'était les débuts de Johnny, c'était les débuts des Chaussettes Noires, des Chats Sauvages, cette époque des années 55-60, tu vois. Voilà. Donc on est parti à faire pour ce qu'on appelait à l'époque du rock, mais donc on faisait du rock, des slow, c'était ça l'époque. Voilà, on montait un groupe. Bon, puis après, on s'est dit, tiens, on va chercher un nom, on s'est dit, tiens, on va s'appeler les Big Boys. Parce qu'à l'époque, il y avait les Beach Boys. Nous, ça sonnait américain. On s'est dit, il y a des Big Boys. En plus, on n'était pas gros, mais fait bon. Voilà, donc on a dit, allez, on prend le nom des Big Boys. Voilà. Et on a travaillé, on faisait des répétitions. Après, alors on répétait donc dans cette salle. Voilà, puis après, dans cette salle, il y avait des après-midi où il y avait un petit public, il y avait facilement 15-20 personnes qui nous regardaient, en train de nous regarder, en train de jouer. c'était l'époque, c'était merveilleux, c'était une époque sensationnelle où les gens, comment dire, on ne cherchait pas la performance, tu vois, c'était le fait d'écouter, on ne cherchait même pas, si tu veux, à se rapprocher vraiment du morceau d'origine, tu vois, on chantait comme on pouvait, mais c'était l'époque des surbooms, les surprises de partie qu'on appelait. Donc, quand tous les copains nous disaient, allez, venez jouer avec, vous ferez deux ou trois morceaux comme ça pour aiguiller un peu l'après-midi. Et après, on a commencé par faire ce qu'on appelait les kermesses à l'époque dans l'école. Eux, l'école où on répétait, donc, avait une kermesse, ils avaient une fois par an ou deux fois par an, donc on y allait avec notre matos. J'ai plein d'images de cette époque-là. Alors, on jouait avec trois fois rien, il y avait.
Des morceaux à vous, des reprises ou...
Non, on ne créait pas. On faisait que des reprises de morceaux. Donc à l'époque, c'était souvent, par exemple, des Chats Sauvages ou Johnny reprenait, lui, des standards américains, des Johnny B. Good, toi, des trucs comme ça. Après, mais on était beaucoup le style des Chaussettes Noires et Chats Sauvages. Voilà, ça, c'était le gros truc, ça.
Maintenant tu peux partir.
Alors après, petit à petit, donc, on s'est affirmé. Bon, on a bien, le groupe a bien duré 5-6 ans, tu vois. Donc après, on a gagné un petit peu de sous, donc on a acheté certainement une petite sono. Moi, j'avais acheté aussi une guitare électrique. D'ailleurs, ça, la guitare électrique, c'était une Oyo. La marque Oyo, c'était cette fameuse guitare que Johnny avait sur les premières pochettes de disques. C'était les fameuses Oyo. C'était une guitare qui a la particularité, elle avait le manche en fer. Voilà. Bon, alors après, quand ça a été ce parcours-là, après on faisait beaucoup de petits bals, de bals de quartier, ou dans des... Même, alors après, bon, on s'est beaucoup plus... l'orchestre a changé, on a changé le batteur, on a changé le chanteur. Et après, là, on faisait après donc du meilleur travail, parce que déjà, on avait quelques années derrière nous. Et là, on allait dans les boîtes de nuit. Là, on a fait le Type Club. Moi, ça, le Type Club, c'était une boîte là où il y a le Varium aujourd'hui. En bas, il y a un espace qui est... Pas moi, quand on rentrait combien 50, 60, 80 personnes. On était serrés comme des sardines. Et là, donc, on avait... On jouait, donc ils nous demandaient de venir jouer de temps en temps. Donc il y avait des groupes de l'époque, les frères Ozel sur Montauban, qui étaient nettement plus avancés que nous. Après, tu avais des orchestres de Toulouse, des orchestres de... c'était toujours des... Il y avait un groupe qui s'appelait le Chœur. Le Chœur, je ne sais pas si tu n'as pas connu. À cette époque-là, il y avait Pierre Boccola qui faisait partie de ce groupe, Pierre Boccola. Donc j'ai connu Pierre Boccola à l'époque où il n'était pas tout seul, il était dans un groupe qui s'appelait Le Chœur. C'était les années... j'avais 20 ans, de 20 ans... Ah voilà, alors après, bon, j'avais mon père, donc pour se déplacer, bon, j'avais un petit peu de matériel. Enfin, moi, je transportais mes appareils. Mon père, il avait une Amicis, donc une Amicis Break. Donc c'est déjà, on pouvait déjà se trimballer un peu de matériel. Puis après, je ne m'en souviens plus. Après, le batteur, il devait avoir sa voiture et un truc comme ça. Mais enfin, on n'est pas de fourgon, plus rien. Hein. Mais bon. Puis à l'époque, on avait des... Pourtant, il y avait du volume. Mais les amplis, à l'époque, on repassait pas par la sono. Les amplis, c'était direct. Alors les bassistes, ils avaient des amplis basses, c'était des frigos, oui, presque.
Et du coup, quand tu jouais, comment ça se passait à cette époque? Vous apportez votre sono, et il y avait quelqu'un qui vous
apportait le son? À l'époque, ouais, chacun amenait sa sono. Ouais. Okay. Ouais. Alors, je ne te dis pas, bon, des fois, la technique nous desservait plutôt que nous apporter du confort. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les sonos, tu arrives à récupérer les bons sons, je ne sais pas, avec les... comment dire, les tables de mixage, tu arrives à bien doser tout ce que tu veux, tandis qu'à l'époque, où c'était trop aigu, où c'était trop grave, où il y avait trop d'écho, en fait, c'était difficile à gérer, on n'était pas... Quand on avait joué, les gars nous disaient, c'était pas mal, mais alors, là, on entendait trop la guitare, ou le batteur était trop fort aussi, enfin, c'était pas la perfection, loin de là. Enfin, bon, mais c'était une ambiance à l'époque où, comme je te dis, les gens cherchaient pas uniquement la... comment dire, de réécouter les disques, parce qu'après, après nous, après la génération d'après, il fallait vraiment jouer le morceau aussi bien que possible, avec... Dès que la technique est arrivée, bon, les gens se sont évertués à faire de la copie intégrale du morceau. Hein. Petit à petit, ça s'est arrêté parce que d'abord, professionnellement, il y a des gens qui ne sont pas restés sur Moissac, donc on ne pouvait pas faire de bonnes répétitions. D'autres qui ont abandonné peut-être pour... non, mais c'est surtout le côté... le travail qui nous a un peu séparés. Puis après, on a été, notamment à la guitare, tout ça, on était sollicité par les orchestres musettes, qui venaient chercher dans le creuset des jeunes musiciens. Donc, moi j'ai joué donc, dans un orchestre musette à Moissac, l'orchestre d'Annie Miquel d'ailleurs, qui est aujourd'hui coiffeur, là, qui avait donc sa propre formation. Là, strictement musette, avec accordéon, un saxo, des fois, une guitare, batteur, et qu'est-ce qu'il y avait encore ? Oui, bien souvent, il y avait une trompette et un saxophone, tu vois. Guitare, deux guitares, guitare électrique, guitare basse, batteur. Mais souvent, il n'y avait pas trop de clavier à l'époque, on ne parlait pas trop de clavier. Alors là, on sortait beaucoup. Là, c'était tous les week-ends, on sortait, on allait dans tous les... ou les fêtes de quartier, les fêtes d'été. Ou alors, après, il y avait des boîtes, comme le Scatting à Agen, ou même on a joué à Toulouse, à côté de la rue Saint-Rome, un truc comme ça. Donc là, c'était des après-midi où les gens venaient pour danser. Alors, bon, il y avait surtout le musette. C'était surtout les passos, les marches, les valses, du rock, des slow, et beaucoup d'accordéon. Voilà. Alors après, dans les fêtes de quartier, ils appelaient ça les fêtes votives à l'époque. Donc là, c'était bien souvent le dimanche. Donc, mais même on allait loin, hein, on allait jusque dans l'Aveyron. Bon, là, c'était un chef d'orchestre qui, lui, avait les moyens, avait un fourgon, avait tout ce qu'il fallait. Et donc là, on partait le matin, donc on se levait de bonne heure, donc il y avait le trajet. Après, on arrivait sur place, bien souvent, on nous faisait faire la musique dans les églises. Il fallait jouer un morceau. Donc là, c'était souvent le trompettiste, si tu veux, qui jouait un peu des musiques d'église, toi. Ensuite, bon, on sortait de l'église, donc bon, pendant ce temps-là, bon, il y avait des musiciens qui installaient la sono, les instruments. Là, c'était pour le concert de l'apéro. Ou alors, on faisait ce qu'on appelait la tournée des bouquets, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient sur une charrette ou une remorque, et on faisait la tournée des bouquets, c'est-à-dire que nous, on jouait dans toutes les maisons, on passait dans toutes les maisons pour récolter un peu d'argent. Donc, ils offraient un bouquet de fleurs, ou c'était la fameuse fleur à piquer, là, comme ça. Et voilà, donc les gens donnaient de l'argent, et ça permettait au comité des fêtes bon, de payer les musiciens, de payer ci, de payer là, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la tournée des bouquets. Donc, c'était assez, assez épique, parce qu'à l'époque, il fallait s'arrêter, boire un coup. Alors, je ne dis pas, quand on avait fini la tournée des bouquets, on était déjà bien comme il faut. Ah ben la tournée des bouquets, bon, ça commençait du matin, mettons 10h, jusqu'à 1h, un truc comme ça. Ensuite, l'orchestre mangeait ensemble, mais enfin, bien souvent, il n'y avait pas de restaurant, donc il y avait des familles qui prenaient des musiciens. Donc on allait, c'est pareil, il y en a un qui prenait le guitariste, l'autre qui prenait le batteur, voilà. Donc on mangeait chez l'habitant, qu'on appelle. Et après, donc, sur le coup de 3h à 4h, donc, il y avait l'après-midi dansante. Donc on jouait normalement. Ensuite, il y avait une interruption pour le repas du soir. Après, on remettait ça le soir à 9h. À l'époque, c'était pas, ça commençait à s'étouffer les balles. Donc, on commençait à 9h jusqu'à, je ne me rappelle plus, moi, 1h, 2h du matin, on jouait. Donc, ça fait des journées, basto. Hein. Voilà, donc ça c'était l'époque des balles musettes qu'on appelait. Et ouais, j'ai fait à l'époque 3 ou 4 orchestres comme ça, ouais. 14 orchestres, bon, quand au gré, si tu veux, les gars ils t'appelaient. Après, il y avait des chefs d'orchestre qui abandonnaient ou d'autres qui se relançaient. Toi, j'ai une affiche de l'orchestre Olivier Deschamps. Bon, mais là, c'était déjà des orchestres un peu plus variétés. C'est-à-dire que là il n'y avait pas de. Là, il n'y avait pas d'accordéon, toi. Donc, il y avait un clavier, là, tu avais un batteur, un sax, une trompette. Moi, j'étais là certainement en tant que bassiste, et le chef de l'orchestre, lui, était guitariste.
Et tu chantais à cette époque?
Là, je chantais, oui. Ah oui, moi, je chantais presque la moitié ou les trois quarts du répertoire. Ouais. Chantais, on était pris parce qu'on chantait, il fallait chanter. Bon, après, à musette, tout se chantait pas. Hein. Il y avait beaucoup de trucs, c'était joué à l'accordéon. Après, on chantait les slow, les rock, tout ce qui était pure musette, c'était... Bon, des fois, il y avait un chant, je sais pas, par exemple, tu prends le petit vin blanc ou un truc comme ça, bon, on chantait le refrain ou un truc comme ça, mais après tout, une grosse partie, c'était fait comme ça, ouais. Là, j'ai joué dans cet orchestre jusqu'à 25 ans, ouais. Le chef d'orchestre, je me rappelle, venait me chercher le vendredi soir. On me peut récupérer le vendredi soir, il me ramenait le lundi matin pour être au boulot. Hein. Non, mais on avait des. C'était rude. Hein.
Et du coup, c'était, par exemple, vendredi, un village ou une ville ou une boîte de nuit.
Non, le vendredi, tourner. C'était pour se déplacer, pour être à pied d'œuvre le samedi matin, le samedi avant. Donc, ça arrivait des fois que le chef d'orchestre avait trouvé un contrat le samedi et un contrat le dimanche. Ouais. Même c'était fréquent. Hein.
Parce que tout le monde travaillait ou il n'y avait que le chef d'orchestre?
Ah non, là, on n'était que des amateurs. Hein, ah ouais. On faisait ça pour le plaisir. Hein. Enfin, pour le plaisir, mais enfin, bon, à l'époque, ça gagnait, on gagnait des sous. Hein.
Okay.
On gagnait déjà. C'était fructueux. Hein. Cette formation, elle a duré pas 3-4 ans, 5 ans. Mais là, c'est pareil, parce qu'à l'époque, les formations... bouger, je veux dire, des fois, ils changeaient de batteur, ils changeaient de guitariste, ils changeaient de signe, hein, tu vois, on a fini, parce que le chef d'orchestre, je ne me rappelle plus trop bien, mais l'appareil professionnellement, quand des gens étaient obligés de partir de Moissac ou quoi que ce soit, donc...
Du coup, ça a terminé en quelle année, en fait, ça, par
exemple ? Ça a terminé, moi, je me rappelle, j'avais, dans les années 70-72, Après j'ai eu fait, entre-temps ou après, je ne me rappelle plus, de l'orchestre musette. Et c'est avec l'orchestre musette que j'ai arrêté la musique comme ça. D'une part parce que je me suis marié et on est parti, donc, avec Françoise, on est parti de Moissac, on est parti dans l'Oise. Donc j'ai arrêté complètement la musique à cette époque-là. D'abord que Françoise ne tenait pas à ce que je ne sois pas là le samedi ou le dimanche, donc j'ai vendu le matériel.
C'est quoi le déclencheur qui t'a fait revenir?
Alors là, je n'ai pas refait un groupe, là j'ai fait de l'animation avec un DJ, un gars du coin, là. Alors, moi, on s'est retrouvés comme ça, je pars dans une soirée, on s'est dit, tiens, ce serait sympa, pourquoi on ferait pas, on pourrait pas animer quelques balles comme ça, moi, en tant que DJ, et toi, tu animerais la soirée. Donc on a démarré comme ça. Donc, moi, j'assurais toute la partie... La partie animation, donc je chantais donc des trucs, ça, et après en même temps, là je faisais de l'animation, c'est-à-dire je faisais du cabaret. Je faisais du cabaret, c'est-à-dire que je me déguisais. Donc je faisais des déguisements humoristiques, genre Bourville. Après je me déguisais souvent en femme, donc je faisais Annie Cordy, je faisais Sylvie Vartan, Edith Piaf, enfin pas Edith Piaf, mais comment elle s'appelle, Dalida, tu vois, Paul Naref, tout ça, donc je faisais des... Donc j'assurais cette partie, cabaret, donc c'était ça pendant le repas. Tu vois, donc on est marré un petit peu pendant le repas, donc pendant tout le repas, j'amusais la galerie. Donc je descendais dans le public, maquillé, tout ce que tu veux. Et après, donc, et bien après c'est le DJ qui prenait la suite et jusqu'à le matin. À l'époque, ça durait des fois 3, 4 heures, 5 heures du matin. Pendant un paquet de temps, on a fait des animations comme ça. Et là aussi, on a bien tourné. Et après, bon, moi j'ai arrêté parce que bon, j'en avais un peu ma claque de faire ça. Après, j'avais le copain qui était DJ, bon, lui au contraire voulait en faire plus. Donc lui après il faisait des animations de sonorisation de ville, toile, tout comme ça, donc un sono, donc il était bien équipé. Donc on a arrêté comme ça un petit peu par consentement. Après bon... Après, c'est vrai que ce genre de truc, quand tu l'as fait pendant 5 ans, 6 ans, les gens te connaissent. Bon, je refaisais souvent les mêmes choses, bien sûr. Donc, ça méritait d'être un peu... d'être revu un peu. Enfin, bon, je pense à ça maintenant. C'est un peu aussi qui nous a fait qu'on a arrêté parce que, bon, on ne se renouvelait plus, en fait. Ou moi le premier. Mais bon, après, pendant le repas, bon, j'animais le repas avec la chanson des anniversaires, des choses comme ça. Enfin, on a fait des trucs géniaux, hein, c'était génial. Hein. Quand on a arrêté, quelques années après, les gens ont dit, c'est ça, c'est l'hommage, pourquoi vous ne le referiez pas et tout. Parce que c'est vrai qu'on on a porté ce côté spectacle que ne savaient pas faire les autres. C'était une époque géniale. Ça, c'était les années 80, jusqu'à 90. Après, donc, moi, je l'ai fait tout seul. C'est-à-dire que là, j'assurais les deux. Mais là, je me réservais, si tu veux, pour les petites réunions. Je veux dire, bon, le repas de chasse, le repas du troisième âge, tout comme ça, tu vois. Bon, toujours pareil. Donc, je me déguisais, je jouais... un peu d'instruments pendant le repas, et ensuite je faisais danser. Mais là, bien souvent, c'était plutôt des après-midi dansantes, tout comme ça. Ouais. Donc ça, je l'ai fait tout seul pendant pas mal de temps. Ouais. J'ai jamais arrêté, si tu veux, finalement, à part les premières années de mariage, là où j'avais vraiment mis la clé sous la porte, comme on dit.
T'as pas remonté de formation
Alors si. Ouais. Alors après, on s'est retrouvé donc... bon, mais ça c'était donc... Ça fait pas si longtemps que ça, ça fait 5 ans, 6 ans. On avait refait une formation avec des copains du cru, là. Alors là, donc, on reprenait donc les chansons. Bon, j'avais un copain qui faisait... qui connaissait assez bien le répertoire des Shadows. Donc on refaisait intégralement les morceaux de Shadow. Ça, c'était une partie. Ensuite, après, on reprenait bien souvent les années 60 aussi. Tout ce qui était années 60, enfin tout, pas tout, mais... Dans notre répertoire, on avait, je crois, une quarantaine ou cinquantaine de morceaux. Là, c'était pas assez simple, c'est-à-dire qu'on s'était dit... On va faire des chansons du passé, donc des années 60, et la manière simplissime, c'est-à-dire, si tu veux, sans chercher réellement, avoir les sons de l'époque ou quoi que ce soit, on s'appropriait un petit peu les arrangements. Voilà pourquoi on s'appelait Passé Simple. Voilà, donc cette formation s'est arrêtée. Enfin, moi, j'ai arrêté. Parce que bon, là aussi, ça m'a mené pas mal de contraintes. Il fallait répéter à Montauban tous les deux fois par semaine. Donc, ça m'a mené des contraintes. Donc, moi, j'ai abandonné. Après, il y a un gars qui m'a remplacé à la guitare. Donc, ils ont suivi un peu la formation. La formation a suivi un an de plus. Puis après, ils ont arrêté. Ce qui fait que la formation est complètement... complètement arrêté.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de nous. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce que le blues.
Fait alors après j'ai voilà ce que je fais encore. Je fais de l'animation, bon, chant et guitare et chant, dans les EHPAD. Voilà, donc, les EHPAD de Moissac, je suis allé un petit peu sur les EHPAD à Castel, ou avec... alors, des fois, ça dépend, j'y vais avec un accordéoniste, des fois.
Et comment ça t'est arrivé, cette idée de... Ou c'est une proposition, comment
c'est... Ouais, toujours pareil, des propositions... ah, oui, c'est venu. J'ai un copain qui avait son père qui était résident donc à l'EHPAD de Moissac. Et donc un jour il me dit, tiens, mais pourquoi tu ne venais pas jouer comme ça pour le plaisir, là, pour leur faire une petite attraction, parce que tu sais, ils aiment bien la musique, ils aiment comme ça, tu pourrais venir, ce serait sympa. Venez. Donc je me suis mis en contact avec l'animatrice, qui était enchantée d'avoir quelqu'un qui se propose comme ça pour... gratuitement en plus, donc j'ai commencé comme ça, donc j'en ai fait une trentaine depuis. Donc là c'est le côté un petit peu là c'est pour faire plaisir aux gens, pour leur apporter ce côté un peu dérivatif, enfin, pour tu sais, pendant une après-midi, ils écoutent la musique. Alors là je prends le registre des anciens, hein, tout ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse, toutes les valses d'époque, les tangos, les passos. Bon, j'y rajoute quelques chansons humoristiques, hein, des choses comme ça, et voilà, pendant une heure et demie. Alors, bon, c'est sûr que c'est un public... assez passif. Ils sont pas là. Ils dansent un petit peu, parce que des fois, les personnes qui les encadrent comme ça, bon, ils viennent, alors ils les font danser un petit peu comme ça. Mais moi, c'est mon plaisir, c'est celui de leur faire plaisir. Voilà, là, uniquement pour ça. Même si le public est compliqué, je veux dire, entre guillemets. Parce que bon, comme il n'y a pas le retour, on a plaisir quand on joue sur scène, c'est d'avoir cette réponse du public. Savoir que les éclats de rire, des ci, de là, des expressions de visage qui te font plaisir quand tu joues. Tandis que là, tu c'est pas ça. Mais bon, tu sais que dans leur fort intérieur, ils sont demandeurs. D'ailleurs, l'animatrice, quand elle en a programmé l'après-midi, quelques temps avant, elle a dit, vous savez, il y a Jean-Luc qui va venir. Hein, là, ils sont contents. Ils disent, on va se régaler. La musique réveille beaucoup des... qu'on appelle ça, pas des instincts, mais... moi, j'ai joué aussi là pour des gens très, très, très handicapés. D'écouter la musique, ça les transcende un petit peu. Là, ça m'est arrivé aussi de faire des animations là pour des gens qui sont qui sont handicapés, si tu veux, des gens trisomiques ou des choses comme ça. Et donc il y a des structures sur Montauban, par exemple, bon, où ils les prennent ou les après-midi, par exemple, bon, pour les distraire, ou alors ils les prennent, ils vont faire une 4-5 jours de sortie. Par exemple, ils venaient chez Fredo. Et donc, pendant 2 ou 3 jours, ils les occupent le matin, ils vont faire ci, ils vont faire là, je sais pas, ils vont jouer un truc à la pêche, ils vont découvrir un truc, ils vont dans un musée. Hein. Après, l'après-midi, bien souvent, ils me demandent me demander d'y aller pour animer le repas et tout ça. Alors là, c'est pareil, c'est génial, génial, génial. D'autant plus que j'ai rencontré là, des petits jeunes, là, des jeunes qui ont des difficultés, mais qui faisaient de la percussion, tu vois. Donc il m'a accompagné à la percussion, tout ça, et on a fait des trucs extraordinaires. Ouais, ça, j'adore ce public-là, tu vois. Autant il y a un public de jeunes aujourd'hui qui vont pas adhérer à mon style, parce que bon, je suis un peu dépassé, tu vois. Ce que je joue, ça s'intéresse plus à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc j'ai un peu cet échappatoire. Ah ben là, si tu veux, mon premier groupe, il date de... J'avais une quinzaine d'années, et aujourd'hui j'en ai 73. Ça fait 50 ans que je fais la musique. Alors voilà, une chanson qui s'appelle « Doux Noël », version française donc d'un blues américain qui s'appelle « Blues Christmas ».
Je rêve d'un doux Noël pour nous deux, de voir le feu briller dans tes yeux. Et au pied du sapin, te tenir par la main, et puis t'offrir tout l'amour en cadeau. Qu'il serait doux ce Noël pour nous deux, avec dehors la neige, les étoiles aux cieux, près de la cheminée, de courir, de baiser. Je veux un doux Noël, rien que pour nous deux.
Prendre de côté, mais après, bon, la guitare, il faut travailler, il faut passer des heures et des heures pour arriver à placer les accords, pour... Moi, à l'époque, quand on avait, dans les années 60, nous, on n'avait pas tout le matériel qu'on a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas Internet à l'époque qui te permette de copier. Nous, tous les morceaux, j'écoutais les morceaux avec le tourne-disque, en 33 tours. On le passait en 45 tours. Et en 45 tours... de suite, tu as les basses qui sont moins sourdes, okay. Et tu arrives à récupérer la ligne musicale de la basse. Okay. On faisait comme ça.
Je rêve d'un doux Noël, rien que pour nous deux. Oh oui, je rêve d'un doux Noël, rien que